OPS 28, c'est le nom de la plateforme participative lancée récemment par nos amis d'Eure-et-Loire Nature. Vos observations naturalistes sont des données précieuses pour le suivi des espèces et les différentes études menées par les associations au niveau local et national. Cette plateforme vous permet de les partager, mais aussi d'avoir accès à de nombreuses données. Et comme d'habitude, avec Eure-et-Loire Nature, eh bien c'est un lieu d'échange et d'apprentissage. Pour nous en parler, nous retrouvons toujours à distance, deux bénévoles d'Eure-et-Loire Nature, Colette Sens et Jean-Luc Rousseau. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous pour évoquer OPS 28, une base de données participative, voilà qui pourra paraître bien énigmatique à certains de nos auditeurs. Alors prenons les mots dans l'ordre, qu'entend-on par base de données et quelles sont précisément les données qui intéressent Eure-et-Loire Nature ?
Donc en fait, les données participatives, c'est chaque personne qui est par exemple en Eure-et-Loire, que ce soit un naturaliste, un observateur, disons lambda, qui observe des choses dans son jardin, ne serait-ce qu'un papillon, il peut évidemment le rentrer sur la base OPS 28. Cette base récupérera toutes les données qui seront ensuite utilisées de différentes façons pour enrichir la connaissance de la biodiversité de notre département, comme pour participer à différentes actions, à la rédaction d'ouvrages divers, à des atlas. Et ces données seront ensuite retransmises sur une autre base qui est régionale. Et à partir de cette base régionale, ces données seront remontées au muséum à Paris. Donc il y a un grand intérêt à mettre ces données sur cette base.
Évidemment, nous reviendrons en détail sur toutes ces étapes, mais on comprend bien tout l'intérêt de cette base de données. Alors, Colette, vous l'avez dit, il y a le côté participatif, mais avant ça, moi je voudrais vraiment qu'on s'intéresse aux données. Vous parliez par exemple, vous donniez l'exemple d'un papillon dans un jardin. Quelles sont les données qui intéressent l'association ? Est-ce que ce ne sont que des espèces animales ou est-ce qu'on a aussi des espèces végétales ?
Oui, il y a les espèces animales. Donc la base se décline en différents observatoires. Mmh. Donc, pour les animaux, on trouve les oiseaux, les mammifères, les batraciens et ainsi que les différentes catégories d'insectes. Et il y a évidemment une catégorie flore. Cette base-là, enfin, tout ce qui concerne la flore remontera sur le conservatoire qui récupère le conservatoire du bassin parisien qui récupérera toutes ces données également pour différentes études. Donc, il est très important, même la moindre petite donnée de la flore locale ou même des villes, ne serait-ce qu'un sénesson, un pissenlit, toutes ces plantes-là doivent être répertoriées pour améliorer la connaissance.
Alors, j'imagine que certains de nos auditeurs qui ne sont pas des naturalistes chevronnés, mais qui possèdent tout de même quelques solides connaissances, eh bien, ils doivent se demander si leur participation est attendue et si elle est souhaitable. Il faut quand même être sûr de soi quand on rentre une observation.
Oui, mais il y a également dans cette base un petit module qui s'appelle « Aide à la détermination ». Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre une observation. Nous préférons dans beaucoup de domaines qu'il y ait une photo, car la photo va permettre de valider une observation qui pourrait nous paraître un peu douteuse. Mais je pense qu'avec quelques guides, les personnes seront à même d'identifier un pissenlit ou bien une pâquerette, parce que même la pâquerette doit être rentrée sur le site. Et donc, il y aura toujours une aide à la détermination qui sera possible par les validateurs.
Alors, très concrètement, si je fais une observation, qu'est-ce que je dois faire pour la rentrer dans la base de données OPS 28 ?
Bien, c'est tout simple. On rentre donc sur OPS 28. Ensuite, il y a un petit cadenas qui se situe en haut à gauche, à droite. Donc là, on clique sur le cadenas et ça ouvre un petit module dans lequel on peut s'inscrire. Avant de pouvoir rentrer une donnée, il faut être inscrit. Donc c'est très simple, l'inscription, justement, ce site est très fluide et très facile d'utilisation. Donc on rentre en premier son nom, son prénom, son adresse mail et on coche les différentes cases qui nous seront demandées. Une fois cette inscription faite, on reçoit dans sa boîte mail un lien pour le valider et à partir de là, on peut rentrer n'importe quelle observation. Si par le plus grand des hasards, on a des difficultés à s'inscrire, il ne faut pas hésiter à contacter Eure-et-Loir Nature, qui vous redirigera vers différentes personnes qui pourront vous aider. Voilà, à valider votre inscription. Il en sera de même dès que vous avez des problèmes pour rentrer des données. Nous sommes maintenant plusieurs à être personnes ressources. Donc, les gens, par le biais de Eure-et-Loir Nature, nous contactent et nous les aidons dans les différentes étapes.
En termes d'observation, il y a plusieurs types d'observations différents. Est-ce que ça peut être donc des observations ponctuelles, mais est-ce que ça peut aussi être un petit peu sous forme d'inventaire sur un espace en particulier qu'on va suivre pendant plusieurs heures?
Oui, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que lorsque nous sortons, nous qui sommes des naturalistes, disons, avertis parce qu'on pratique depuis de très longues années, donc ponctuellement, même quand je vais en course, j'avoue, je vois un papillon, aussitôt je le note dans un coin. Donc ça, ce sont des observations ponctuelles que l'on peut faire n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Et ensuite, nous avons nos lieux de prédilection. Jean-Luc me le confirmera. Nous allons souvent sur les mêmes sites et saison après saison, nous constituons un inventaire de tout ce que nous voyons et nous le rentrons également. Donc en fait, tout est permis. On peut rentrer une seule donnée comme on peut en rentrer beaucoup plus si on fait un suivi de site.
Alors Jean-Luc, justement, pourquoi est-ce que Eure-et-Loir Nature a créé sa propre base? On sait qu'il en existe un certain nombre, notamment Faune France, qui est gérée par la LPO et qui collecte aussi des données département par département. Alors on imagine que les données de DOPS 28 vont servir précisément les opérations menées par l'association et ses différentes missions.
Oui, c'est tout à fait ça, effectivement, puisque les données donc collectées via Ops 28 vont servir, on va dire, de matière première, afin donc notamment de réaliser, ne serait-ce que par rapport à l'équipe salariée, des rapports d'études qui peuvent leur être demandés. Par exemple, certaines communes se rapprochent de l'association pour demander un inventaire de biodiversité communale. Ceci tout simplement en fait afin d'adapter la gestion de leur milieu naturel pour notamment protéger les espèces sensibles. Et bien justement, pour établir ce rapport d'études, on va se servir des données naturalistes collectées via cet outil OPS 28. Tout comme par exemple des sociétés d'éoliennes peuvent aussi nous contacter pour établir des rapports d'études de pré- ou post-implantation d'éoliennes afin de connaître l'impact que ces éoliennes pourraient avoir sur la faune et l'avifaune locale.
Alors donc ça, c'est un impact sur la préservation de l'environnement dans notre département.
Tout
Colette
à
nous
fait.
disait aussi qu'il y a une remontée de ces données vers des organismes nationaux, donc ça sert aussi des objectifs plus globaux.
Tout à fait, parce que vous parliez effectivement de Faune France. Donc c'est vrai qu'effectivement les données que nous rentrons, donc nous saisissons sur Europe 28, elles vont donc remonter aussi via Faune France au niveau national pour toutes les enquêtes qui sont donc réalisées, ne serait-ce que par le Muséum naturel d'histoire de Paris, le Muséum d'histoire naturelle, pardon, de Paris, qui donc en fait orchestre donc ne serait-ce que les enquêtes oiseaux nicheurs, par exemple, oiseaux hivernants. Ou ne serait-ce que l'aide à la centralisation donc de l'inventaire national du patrimoine naturel, puisqu'en fait il y a donc l'INPN qui a été donc mis en place au niveau national afin donc de pouvoir connaître la répartition de chaque espèce, que ce soit donc des plantes, des oiseaux, des insectes, etc., au niveau national, afin de mieux cerner donc leur répartition et de mieux axer après donc les mesures de protection nécessaires dans certains secteurs et certains milieux.
Alors, l'autre intérêt d'Obs 28, en dehors des observations rapportées, eh bien, c'est que la base est libre d'accès pour la consultation. On peut ainsi découvrir les espèces observées, mais aussi les lieux où elles ont été, et tout un tas d'autres statistiques et informations. Alors, lesquelles et pourquoi ce libre accès?
Parce qu'on est sur une base de données donc justement qui se veut à vocation participative. Donc tout un chacun, effectivement, où qu'il habite dans le département, peut donc, si toutefois donc cela l'intéresse, regarder et rechercher en fait quelles sont les espèces qu'il peut donc observer à son niveau sur sa commune. Et se prendre au jeu de se dire bah, tiens, je vais regarder dans mon jardin ce que j'ai, voir si ça si je retrouve les espèces qui ont été donc saisies et auquel cas participer donc aussi à son niveau en saisissant ces données donc au niveau au sein de son habitation par exemple.
Et Colette nous le disait tout à l'heure, en fait il y a pas de petites espèces, même elle nous parlait d'une pâquerette par exemple tout à l'heure, ces informations ont un intérêt.
Complètement, que ce soit les espèces rares ou les espèces communes, elles ont toutes leur importance à être saisies. Parce que si je prends donc pour exemple le côté donc oiseau, c'est vrai que même les espèces communes doivent être saisies afin de mesurer en fait l'impact des changements naturels, notamment du réchauffement climatique, sur la tendance démographique de ces espèces-là. Et justement le fait de continuer donc à saisir les espèces communes nous permet donc en regard du recul que l'on a, hein, puisque l'association existe depuis 1992, ça nous permet justement de tirer des conséquences de certaines chutes de répartition d'espèces que l'on aurait pu donc constater dans le cadre donc du suivi des oiseaux communs, par exemple.
Très bien, donc les auditeurs qui veulent peut-être dans un premier temps découvrir cette base de données vont pouvoir par exemple découvrir des cartes et puis voir, comme vous le disiez tout à l'heure, quelle espèce a été observée où. Ça aussi, ça peut aiguiser la curiosité de nos auditeurs.
Tout à fait.
Et puis alors, cerise sur ce gâteau naturaliste, eh bien la base photographique, Colette nous disait tout à l'heure qu'il est mieux, si c'est possible, d'accompagner son observation d'une photographie. Du coup, on commence à avoir une belle collection photographique.
Oui, tout à fait. En plus, ce qui est intéressant, c'est que cette base, bon, elle est récente, hein, puisqu'elle a juste, elle s'est mise en place il y a environ un an, au mois de mars, pendant le premier confinement. Donc, pour l'instant, évidemment, il y a encore peu d'espèces qui sont rentrées, mais déjà, la base photographique est riche. Et en plus, c'est un bon appui pour permettre aux gens, ne serait-ce que d'aller dans les différents modules. Donc là, ils vont dans les observatoires, là où il y a les petites jumelles à gauche. Ils choisissent un observatoire. Et en cliquant sur l'observatoire, ensuite, ils vont aller à droite pour regarder dernières photos. Et là, par exemple, ils auront toutes les photos concernant les hémiptères, qui sont donc des punaises. Ça leur permettra déjà aussi, si eux-mêmes ont rencontré un insecte qu'ils ne connaissent pas, d'essayer de l'identifier par ce biais. Donc ça, c'est également une aide. Et puis... Moi, je suis plus portée sur les plantes et les insectes. C'est important, c'est très important d'essayer de progresser et de se lancer, de pas avoir peur de se lancer. Donc, de faire une photo dès qu'on voit quelque chose qui nous intrigue. Donc, au fil du temps, de nos promenades. Donc ça, c'est vrai que j'incite toutes les personnes à participer. Actuellement, nous avons lancé sur le site, là aussi, donc il y a Cédric Baudouin qui va lancer un atlas des mammifères, donc il est important de recenser déjà tous les mammifères possibles. Et avec lui, nous avons également, Claude Heras et moi, lancé pour la fin 2021, un petit inventaire de nos connaissances sur deux familles de lépidoptères, donc de papillons. Donc ça sera très participatif. On a, alors là, justement, sur le site, on peut faire des annonces pour inciter les personnes à mettre des données. Donc là, c'est un très bon outil qui va nous permettre d'aller plus loin. Et les gens... visiblement, sont très intéressés. Ça commence à bien fonctionner.
Alors, est-ce
Voilà.
qu'on a justement une idée du nombre de personnes qui pour l'instant, collaborent à Ops 28?
Alors, pour l'instant, il y en a peu. Il y a 130 inscrits. Mais il y avait avant, bon, à cause, je pense, du confinement, ça s'était pas beaucoup diffusé. Donc, c'était surtout des personnes d'Eure-et-Loir Nature qui s'y étaient inscrites. Ensuite, il y a eu un article dans la presse qui a fait découvrir une première fois cette base. Donc, on a eu de nouvelles inscriptions. Et j'ai l'impression, là, depuis quelques semaines, qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont découvert cette base. Et donc, plus elle sera connue, plus il y aura d'inscrits, plus nos connaissances seront valorisées.
Et puis, vous le précisiez tout à l'heure, Colette, mais si nos auditeurs ont des questions pratiques, ils peuvent bien sûr contacter Eure-et-Loir Nature et ses bénévoles, des bénévoles qui sont toujours accessibles. Et puis, il y a un vrai partage d'informations et de méthodes.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour chaque observatoire, il y a donc des bénévoles qui sont, enfin, il y a en partenariat avec les salariés de l'association, des bénévoles qui valident donc les observations. C'est-à-dire que chaque jour, moi, je sais que je vais sur le site, je suis validatrice pour les papillons et la catégorie autres insectes. Donc, je vais sur le site, je vérifie avec d'autres personnes les nouvelles observations. Nous les validons. S'il y a un souci, nous en parlons avec les personnes. Il y a toujours la possibilité de mettre des messages. Et puis, ensuite, nous validons également les photos. Donc, il y a tout un partenariat. Nous pouvons également, si des personnes ont des difficultés, rentrer leurs observations à leur place. Donc, par exemple, Claude Heras, qui est donc un naturaliste de l'association depuis de très très longues années, il est chargé là, actuellement, et nous avons récupéré une base sur les lépidoptères du CEN, et c'est Claude qui va les rentrer sur Ops 28. Donc il y a un très gros travail qui est fait également par les bénévoles
Très
pour
bien.
améliorer la base et les connaissances.
Très bien. Et Jean-Luc, votre rayon, si j'ose dire, ce sont plutôt les oiseaux?
C'est ça, oui, tout à fait. Moi, je suis référent sur l'observatoire, donc oiseaux. Donc après, effectivement, chaque personne rentrant donc des données a la possibilité donc de laisser un commentaire s'il le souhaite, s'il n'est pas sûr de l'observation qu'il a réalisée. Par exemple, effectivement, le dernier cas que j'ai en tête est le cas d'une personne qui avait donc en fait entendu un pic chanter, et comme elle n'était pas très sûre de quel type de pic il s'agissait, elle avait donc laissé un enregistrement
Oui.
vocal sur la base, puisqu'on peut aussi laisser ce type d'enregistrement, ce qui nous a permis donc effectivement d'écouter cet enregistrement et donc de pouvoir lui confirmer de quel type de pic il s'agissait.
Très bien. Encore une fois, une belle preuve du partage entre les bénévoles et puis aussi donc avec les personnes qui vont participer, nombreuses on l'espère, à cette base de données Ops 28. Merci à tous les deux pour cette présentation. Une base à retrouver donc sur Internet à l'adresse ops28.org. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.